Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles, un épisode, va falloir se mettre en short, va falloir se mettre en t-shirt, va falloir chausser les baskets, ça va être sportif, c'est parti. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on vous emmène dans le désert. Pour faire quoi ? Pour faire un marathon, et pas n'importe lequel, le marathon des sables. Épreuve ultime pour les runners du monde entier, le marathon des sables. Autant le dire, on est dans quelque chose de l'exploit. Et aujourd'hui, si on en parle, parce que nous allons recevoir Frédéric et sa fille Cécile, un père et une fille qui ont fait le marathon des sables ensemble, main dans la main. Et là, je peux vous dire que ça impose le respect. Donc on entend Frédéric et Cécile avec Agathe, le Caron, qui elle, avant qu'elle fasse le marathon des sables, je peux vous dire, il va en couler de l'eau sous les ponts. Et puis nous serons juste après avec une psy, Eve Pirovitch, c'est parti.
Souvent on parle de la complicité père-fils, mais c'est vrai qu'on parle un tout petit peu moins de la complicité d'un papa avec ses filles, et qui peut être très très forte, un lien donc unique qui donne parfois envie à ce duo de partager des aventures hors du commun. C'est le cas de Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Frédéric, vous êtes père de 4 filles. Et, oui. Et vous avez tenté l'aventure du marathon des sables avec Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Tu as 16 ans, Cécile. Alors, le marathon des sables, c'est quand même 250 km à parcourir en plein désert marocain, en autosuffisance en plus. Donc c'est un sacré défi que vous êtes lancé. Déjà, est-ce que vous pouvez me parler de votre relation à tous les deux, Frédéric ?
Mais elle est excellente, notre relation. On a toujours été très proches, Cécile et moi. Je pense qu'on a un certain nombre de points communs dans notre personnalité, notamment. Cécile est quelqu'un qui a le sens de la compétition, du défi, qui aime atteindre ses objectifs. Je pense que je partage ça avec elle. Et c'est une des raisons qui font qu'on s'est retrouvés sur cette compétition du Marathon des Sables.
Mmh. Mais au quotidien, vous vous disputez, vous avez des relations
oui,
parfois
oui, on
tendues.
S'est encore bien engueulé il y a 3 jours, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est souvent constructif. Mmh. C'est-à-dire qu'on a toujours une relation, si de temps en temps il peut y avoir un clash, comme ça arrive entre tous les papas et leurs filles, on a toujours réussi, et c'est, je crois, fondamental à communiquer, à s'écouter.
Cécile, tu es d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord avec lui. On a aussi une relation qui évolue. On fait pas les mêmes activités, on parle d'autres sujets.
Oui, comme Cécile grandit, c'est vrai qu'on commence aussi à avoir des discussions plus d'adultes,
sur
la vie, le sens de la vie, plus philosophique.
Et, c'est génial.
Et on avance ensemble avec tout ça.
Bon, alors Frédéric, comment vous est venue cette idée folle de participer à ce défi ?
Alors d'abord, je crois que ce n'est pas une idée folle, contrairement à ce que beaucoup de gens
pensent. Ça dépend, en ce qui me concerne quand même, Frédéric, sachez, pour moi, c'est un peu une idée folle.
Mais c'est ça qui rend le projet aussi un peu excitant. Mais c'est quelque chose qui, en fait, au fond, est raisonnable. Parce que si ça ne l'était pas, je n'aurais pas emmené Cécile.
Bien sûr.
Et moi, je suis un passionné d'ultra-trail, c'est-à-dire ces courses à pied très longues qui se pratiquent souvent dans des très beaux endroits, notamment dans le désert. Et ça fait plusieurs années que je disais à Cécile, je vais t'emmener faire le marathon des sables quand tu auras 16 ans, puisque c'est l'âge minimum. Moi, je l'ai déjà fait 3 fois, c'était mon 4e.
Ah oui.
Et Cécile était très réceptive à cette idée, parce qu'il ne faut surtout pas la forcer, sinon on va dans le mur.
Bien sûr.
Et donc, quelques mois, c'était l'été dernier, j'ai dit à Cécile, là, tu vas avoir 16 ans, est-ce que tu veux y aller ? Et elle m'a dit oui. Et je l'ai emmenée, pourquoi ? Parce que, bien sûr, elle voulait, mais aussi parce que je savais qu'elle était en capacité d'aller chercher cette médaille. Mmh. Parce que c'est quand même une épreuve particulière. Soit ça passe et on construit quelque chose ensemble et ça lui apporte quelque chose dans la vie, soit ça casse, alors l'échec ça permet aussi d'avancer, mais quand il se passe mal, quand on y a mis énormément d'énergie, c'est quand même beaucoup moins productif. Donc c'était un peu qui tout double, et je pense que vu la façon dont ça s'est passé, on a tout gagné.
Qu'est-ce qui t'attirait toi, Cécile, dans ce défi ?
Alors moi, il y avait plusieurs choses. Déjà, papa m'en avait beaucoup parlé, comme il l'avait déjà fait. Il m'avait dit que du bien, et le fait qu'on dorme sous des tentes, qu'on mange du lyophilisé, que ça soit à l'aventure et aussi pour se dépasser, parce que j'avais jamais fait un défi comme ça, 250 km de marche.
Donc les chiens font pas des chats quand même. Hein. Papa est passionné de ces longs treks et toi c'est un petit peu pareil quand même. Je pense que la passion avait été transmise. T'as entendu parler de ça depuis que t'es toute petite, non?
Oui. Il m'a beaucoup raconté.
Ouais, ça fait... presque 15 ans maintenant que je fais ces choses-là. Ouais.
Donc forcément, pour toi, c'était, j'imagine, assez familier, puis ça devait te faire rêver de voir ton père aussi heureux, te racontant ses aventures.
Mmh. Oui, j'étais contente de partager un peu cette passion avec lui et de découvrir un peu son univers.
Frédéric, on l'a dit, donc le Marathon des Sables, c'est 250 km, c'est en autosuffisance. Comment est-ce que vous êtes préparé?
Alors,
pour cette aventure.
On s'est préparé pendant 6 mois, grosso modo.
Ah, quand même.
Et on faisait tous les dimanches une sortie rando-course, c'est-à-dire qu'on alterne marche et course sur une distance plus ou moins longue qui faisait entre 20 et 50 km. Et puis à Noël, on est parti 3 jours, sac sur le dos, et on a fait une centaine de kilomètres avec pas mal de dénivelé. On a grimpé le Mont Ventoux et tout, c'était très sympa. Il y avait un bon temps pourri d'ailleurs. Mais
que tous les deux ou en famille?
Non, tous les deux.
Tous les deux.
Tous les deux. Ouais, c'est des moments qu'on a partagés tous les deux. Alors ça aussi, il faut le gérer parce que, en effet, il y a le reste de la famille. Donc il y a ma femme et puis nos 3 autres filles. Donc c'est sûr qu'elle aussi voit qu'on passe du temps à s'entraîner. C'est pas une cassure parce que c'est géré comme il faut et tout le monde comprend l'engagement. Mais c'est à prendre en compte.
Bien sûr. Ouais. Tu es sportive, toi, Cécile?
Non, moi, je suis pas...
Ah bon?
Non, à l'origine, je suis pas très sportive.
C'est ça le plus génial.
Ah oui.
J'ai fait quelques années de badminton. Et c'est en commençant les entraînements que j'ai découvert la course. Et j'aimais bien parce qu'on avait un défi qui était le Marathon des Sables. Et,
Oui, c'était vraiment particulier à cet objectif-là. Mais tu n'es pas une grande sportive dans l'âme, quoi.
Non.
D'accord.
Non.
Et est-ce qu'il y avait des choses que tu appréhendais avant de partir?
Il y avait plusieurs choses. Déjà, le poids du sac.
Ah oui.
Parce qu'on s'était entraîné un petit peu avec le sac lors de nos 3 jours, mais là, on avait un sac qui faisait environ 10 kilos. Donc, c'était...
10,5 kilos, c'est 20% de son poids, quand même.
Oui.
Alors, ça,
c'est compliqué dans les dunes.
Oui.
Et après, il y avait aussi la chaleur. On s'est entraîné en plein hiver, du coup, il faisait assez froid. Et là, c'était un peu le choc des températures.
Oui, c'est ça. Et ce paramètre-là que vous alliez découvrir, que forcément, vous ne pouvez pas... Enfin, vous l'anticipez, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va créer chez vous. Donc, il y a quelques semaines, c'était fin mars, début avril dernier, vous êtes donc parti pour le Sahara, sud marocain, 250 km répartis sur 5 étapes en 6 jours, dont une étape longue de 86 km. Je vous regarde, vous êtes mes héros, hein, déjà, je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs, là, quand même, Frédéric, vous êtes dit 86 km, est-ce que...
Ouais, c'est le moment où ça aurait pu casser.
Parce qu'en vous êtes inquiété un peu pour votre fille?
Ouais, je m'inquiétais pour ma fille. Je savais qu'elle allait en baver, qu'elle allait toucher ses limites. Mm-hmm. Une ou deux personnes nous avaient dit avant de partir, ouais, c'est moyen comme idée, emmener sa fille de 16 ans en baver comme ça dans le Sahara, c'est pas sain, c'est pas une bonne idée. Alors,
ce sont des amis que vous ne voyez plus, j'imagine?
Si, mais j'ai tout de suite dit à Cécile, tu vois, Cécile, quand tu as des projets un peu extrêmes dans la vie, à partir du moment où tu veux les faire, il faut les faire. Et tu auras toujours des gens pour te dire, c'est pas une bonne idée. Et donc, il faut que ces gens te motivent d'autant plus. Et donc, donc, il fallait y aller. Mais c'est vrai que sur la deuxième étape, tempête de sable, et puis sur la longue étape de 86 km, on a mis 24 heures, il y avait beaucoup, beaucoup de dunes. Et c'est des moments où Cécile... elle n'a pas atteint ses limites puisqu'elle est arrivée au bout, donc c'est-à-dire qu'elle peut aller encore plus loin, mais on a passé quelques heures où Cécile était en larmes, avait mal, et là, c'est le moment où on se dit, est-ce que j'ai pas fait une connerie quand même? Parce que si jamais ça casse, ça reste un mauvais souvenir, ça lui fait du mal, ça démotive. Et c'est passé, c'est même très très bien passé, puisque Cécile n'a jamais envisagé l'abandon. C'est vrai, hein, jamais.
Non.
Quand elle était en larmes, il était 4h du matin, on était parti depuis 20h en gros, au milieu des dunes. On suit les petits points de lumière qui servent de balisage. Cécile s'endormait, elle pleurait, elle a mal partout. Je disais, allez, prochain checkpoint, il y a des ravitaillements en fait. Hein. Mm-hmm. Prochain checkpoint, on y est presque, il reste 5-6 km, mais ça dure une éternité en fait.
Dans le sable, oui.
Et j'entendais Cécile pleurer, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là?
Oh là, 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 là.
Qu'est-ce que je fais? Et voilà, on arrivait, on se posait, et puis Cécile repartait en disant, ok, c'est bon, je vais mieux. Et puis on vivait des moments extraordinaires. C'est à la fin de cette nuit-là où j'ai dit à Cécile, ok, on s'écarte du chemin, et puis on s'est posé. On s'est allongé la tête sur nos sacs et on a attendu que le jour se lève. Je lui ai dit, on repart quand on n'a plus besoin de nos lampes frontales. Et
c'était le plus beau moment, on a trouvé tous les deux que c'était le moment le plus incroyable du Marathon des Sables.
Ouais, c'était le meilleur moment, et le jour étant levé, Cécile avait... Je pense que le corps de Cécile lui a dit « Ok, c'est bon, je vois où on est, là, il fait jour, on peut repartir. » Et on a fini cette épreuve, c'était extraordinaire.
Où est-ce que tu as puisé la force, toi, pour continuer ?
Je pense que c'est grâce à papa, parce qu'il m'encourageait, il m'attendait. Dès que j'avais un problème, il trouvait une solution. Et je pense justement que...
Faire pleurer.
la nuit de la longue étape, j'aurais abandonné s'il n'était pas là.
Ouais, bah c'est vrai qu'on s'est soutenus. Moi, les trois autres fois où je l'ai fait, je le faisais plus en mode compétiteur, même si je n'ai jamais fait partie de l'élite, hein, mais j'essayais de faire le meilleur temps possible. Et là, je le faisais pour que Cécile aille passer la ligne avec moi. C'était un objectif, c'était le plus beau de mes marathons des sables. Et donc, du coup, en fait, j'ai réalisé au retour qu'on avait passé... j'ai passé 6 jours à me consacrer 24 heures sur 24 à Cécile. Et à aucun moment, ça a été pénible. C'est-à-dire que je me suis pas dit une seule seconde... J'ai besoin de temps, quel enfer, il faut arriver à gérer ça. C'était extraordinaire parce que Cécile, elle est arrivée en sachant qu'il fallait aller au bout. Je l'avais bien briefé, je lui avais dit, tu sais, tu vas en baver comme tu ne l'imagines pas. Et t'en as bavé comme tu ne l'imaginais pas. et ça a été une guerrière, on a savouré quoi, de cette vie dans la tente berbère, à partager avec des amis de tente, parce qu'on est dans la même tente pendant toute la semaine. Donc on découvre des gens, on passe du temps avec des gens exceptionnels. Parce que le Marathon des Sables attire les gens bizarres.
Et donc, singularité égale extraordinaire. Donc
c'est hyper constructif. Et c'est pour ça que j'ai emmené Cécile. Parce que c'est bien de faire l'effort, c'est bien d'aller chercher ses limites, c'est bien de voir les beaux paysages. Mais comme je disais, le but, c'est de la construire aussi. Là, elle revient avec une expérience où elle a un actif mental que je pense aucun de ses copains et copines n'a. Elle s'est découverte comme jamais elle s'était découverte. Et je suis sûr, et à mon avis, elle ne s'en rend pas encore compte, mais elle a pris en confiance en elle. Elle sait qu'elle est capable de faire des grandes choses. Moi, j'ai découvert ces courses-là à 30 ans. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Donc, je voulais que Cécile, dès que possible, prenne ça.
Cécile, qu'est-ce que ça a apporté à ta relation avec ton père ? Qu'est-ce que ça a changé dans ton regard sur lui ?
Je pense que... j'ai pu une autre facette de lui parce que parfois il est...
Vas-y, hein.
Et parce que parfois il n'est pas très patient et tout ça. Du coup, là, je l'ai découvert un peu sous un autre angle, on va dire.
C'est vrai que c'est pas mon point fort, la patience.
Ça a aussi renforcé notre lien parce qu'on on passait 24 heures sur 24 ensemble et on a vécu des moments qu'on n'avait jamais vécu. Il m'a aussi découvert dans la souffrance et tout ça, du coup.
Oui, c'est vrai que je l'ai porté comme jamais je l'ai eu à la porter.
Tu ne l'avais jamais vu comme ça.
Non, mais attention, parce que les téléspectateurs ne pensent pas que j'ai emmené ma fille vivre l'enfer. Hein.
Mais pas du tout. Non,
qu'on pourrait le penser.
Non, on a bien compris.
C'est des épreuves qui sont organisées, encadrées, on est là, voilà. Et puis, et elle revient qu'avec des étoiles plein les yeux. Hein. Elle n'a qu'une envie, c'est de repartir. Hein.
Merci d'être avec nous, Eve. Vous êtes psychologue clinicienne. L'expérience de Cécile et de son père, on pourrait presque la parenter à un rite initiatique, au fond, hein, quand on les entend. Une entrée dans l'âge adulte, puisqu'en plus, il imagine faire ça avec ses autres filles. Qu'est-ce qui se joue particulièrement dans cette expérience père-fille ?
Oui, je me disais, en les écoutant, si on avait eu plus de temps, j'aurais aimé qu'on questionne un petit peu sur la place de la maman dans tout ça. C'est toujours intéressant d'avoir... le tiers, pas trop loin. De manière générale, je trouve ça absolument fabuleux d'avoir des parents emballés par la vie et qui ont plaisir à partager leur passion avec leurs enfants. C'est-à-dire que si on présente la vie à nos enfants comme une énorme tartine de Nutella, ils vont s'en saisir avec délice. N'oublions pas que la façon dont on présente le monde à nos enfants va conditionner la façon dont ils vont s'en saisir. Donc, on n'est pas obligé forcément de partir au bout du monde, mais partager un match de foot, le livre qui a changé notre vie, tous ces moments-là font acte dans la construction de l'adolescent.
On a reçu une question pour vous d'un papa, en vidéo, regardez.
Bonjour, on parle souvent du complexe d'Œdipe entre les mères et leurs fils, mais qu'en est-il des pères avec leurs filles ? Merci.
Du coup, tout le monde parle, j'ai pas entendu la question.
Oui. Ah non, c'est parce que. C'est ma faute, je jouais avec ce papa est plutôt beau physiquement et que donc j'ai fait un petit commentaire.
Il disait, on parle souvent du complexe d'Oedipe entre les mères et leurs fils, qu'en est-il pour les filles et leurs pères ?
Alors, bien entendu qu'il y a un complexe d'Oedipe aussi pour les petites filles. Tous les enfants passent par ce moment vraiment essentiel, conflit psychique structurant qui va donner vraiment la possibilité d'intérioriser les interdits, de donner naissance au surmoi. Alors, qu'est-ce qui se passe chez la petite fille concrètement ? J'ai envie de vous dire tout simplement, elle va avoir très envie que sa mère passe sous un camion poubelle pour pouvoir se...
En toute simplicité,
entre 4 et 7 ans, je dirais.
Mm-hmm. Pour toutes les petites filles ?
Oui, globalement, et puis pour pouvoir se marier avec son papa au château de Disney, avec Amir comme chanteur.
On a le tableau.
En fait, pourquoi je vous donne ce tableau-là ?
Angèle dans les cœurs.
C'est un amour platonique. Hein, quand on a affaire à souvent des attaquants du complexe d'Oedipe, c'est que, oui, il n'y a rien de génitalisé, c'est vraiment quelque chose de platonique. Et la sortie, la traversée oedipienne va vraiment dépendre de la façon dont les parents vont poser un petit peu, vont donner le là. C'est-à-dire que si on marque bien la différence des générations, si le papa ne glisse pas dans cette séduction, et si la maman prend tout ça avec de la hauteur, dans une contenance, dans quelque chose de... Voilà, elle ne se sent pas attaquée, elle, directement, comme quand on est dans la phase du non, c'est pas contre nous. Il y a quelque chose qui se joue du point de vue de l'inconscient. Mmh. Si on maintient notre tendresse, alors la petite fille, qu'est-ce qu'elle va se dire au bout d'un moment ? Très bien. Je ne peux pas avoir papa, j'ai bien compris. C'est elle la reine, je ne suis que la princesse. Mais si je deviens belle et forte comme ma maman, un jour je pourrai avoir un homme comme mon papa. Et donc là, on pointe bien que le désir se trouve pas... Il y a un désir pour moi en dehors du foyer. Hein. C'est vraiment la barrière contre l'inceste, cette histoire. Mmh.
Cyril nous dit, papa de deux enfants de 15 et 17 ans, nous partons en trek tous les trois cet été. Malgré notre entraînement, j'ai peur que dans les moments difficiles, on se fâche. Comment désamorcer d'éventuels conflits ?
Bon, il peut y avoir des conflits. On vient de le dire, conflits psychiques, conflits dans la vie, tout ça, c'est tout à fait naturel. Et puis, comme dans la parentalité, c'est pas parce qu'on s'imagine que ça va être difficile, qu'on prévoit les choses, que quand on est confronté, c'est forcément...
On n'est pas à l'abri que ça se passe bien.
Bien sûr. Donc... Moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme une classe transplantée. La maîtresse, même au milieu des dauphins et des cigales, garde le cadre pour l'harmonie du groupe. Donc, si on a un enfant ado qui pousse un peu les limites, il ne va pas s'isoler dans sa chambre, il va le mettre sous le palmier ou sous le tipi. Mais on maintient cette différence de génération et l'adulte reste garant du cadre et de l'harmonie du groupe.
Marie vous demande, je suis maman solo suite à une PMA, comment une petite fille peut-elle se construire sans son papa ?
Comment une petite fille peut se construire sans son papa ? La façon dont on va présenter les choses, la façon dont la maman va présenter les choses va forcément conditionner la façon dont la petite fille va s'en saisir. Si la maman raconte les événements à la petite fille, si elle se saisit de la vie avec passion, si elle rencontre un nouvel amoureux, les choses se passeront bien en fait. Mmh.
Une question de Violette. Ma fille de 8 ans ne jure que par son père. Il est son héros. Comment rééquilibrer les choses, car j'en souffre ?
Alors, 8 ans, normalement, on est déjà dans la latence. À 8 ans...
Ça veut dire quoi, la latence ?
La latence, c'est vraiment cette période où on est plus au repos au niveau pulsionnel. On est dédié aux apprentissages, d'ailleurs.
On est sorti d'Oedipe.
Voilà, globalement. Et c'est pour ça qu'on apprend la lecture, l'écriture vers 6, 7, 8 ans, que c'est le démarrage. Donc, peut-être que la zone de séduction n'est pas tout à fait asséchée, que ce papa, peut-être, a très envie de briller dans les yeux de cette petite fille. Donc, ce serait intéressant, peut-être, de savoir pourquoi il y a ce bénéfice secondaire. Et puis, cette maman, pourquoi elle n'arrive pas à prendre sa juste place de maman ? Moi, je vois bien en consultation, parfois, il s'est joué quelque chose dans l'enfance des parents, dans leur parcours. Donc, c'est intéressant d'aller gratter, parce qu'il y a de la place pour aimer papa et maman follement, en fait.
Rachel, vous dire en couple avec une femme et enceinte d'une petite fille, je me demande comment se passera l'Oedipe pour elle.
Alors, de la même façon, hein, ce sont les mêmes ingrédients, donc rivalité, culpabilité, amour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, la question de la fonction parentale n'est pas forcément corrélée au sexe. On a... Pour donner un exemple, des papas qui sont de très bonnes mères juives. Oui. Hein, et des mamans qui posent très bien le cadre. Donc l'enfant, lui, va avoir accès à la différenciation. Et c'est ça qui compte pour que l'enfant se structure. Il va sentir que avec ce parent-là, c'est plutôt maternant, avec celui-là, c'est plutôt... voilà, exactement. Donc il va s'y retrouver, il passera cette étape très bien.
C'est marrant cette expression maternant. On va sans doute être amené à de moins en moins l'employer.
Ouais. Vous êtes maternant, vous?
Oui, mais maternant, du coup, maternant, bah, sans être une mère, donc on va sans doute trouver à inventer un
enveloppant,
mot. Enveloppant, voilà.
Oui, câlin enveloppant. Oh, moi, je suis très 19e siècle, hein, j'ai du mal à quitter certains mots quand même. Hein.
Oui, mais vous citez régulièrement Amir, France Gall, ça c'est 20e siècle, 21e siècle, ça.
Non, Jacques Goldman.
Je suis très chérie FM, quoi.
Ah, chérie FM, très bien.
Oui, c'est ça.
Alors, proche de mon fils, car nous partageons une passion commune, nous dit Romain, la photo, j'ai peur que ma fille se sente délaissée. Est-ce qu'on doit être égalitaire?
Alors, moi, je dis tout le temps en consultation, l'éducation, c'est tout sauf du communisme. Donc, non, il y a plein d'autres choses à vivre avec les autres enfants. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'est pas le même parent avec chacun de nos enfants. Donc, il faut s'autoriser à vivre quelque chose de singulier avec chacun d'entre eux.
Ouais, c'est une question qui n'est pas évidente. Lou vous dit « Je pratique le tennis depuis mon enfance, mais à 16 ans, je m'en désintéresse un peu et j'ai peur de décevoir mon père, grand passionné. Comment lui en parler ?»
Bon, ce papa, il va s'en remettre. Je crois qu'il faut accepter de décevoir. Et c'est ça, grandir. Je crois que devenir adulte, et certains adultes de 50, 60 ans, sur le plan psychique, ne le sont peut-être pas. Jamais devenu. Devenir adulte, c'est se décaler, d'oser se décaler par rapport au désir de ses parents. Voilà. Agassi, dans son bouquin, a expliqué qu'il n'a jamais aimé le tennis. Hein. C'est quand même problématique.
En fait, il faut lire ce livre et plus personne ne forcera ses enfants à faire du sport ou de la musique.
Exactement. Il faut accepter de décevoir ses parents quand on entre dans l'âge adulte. C'est ça, devenir adulte. Et puis, il vaut mieux le faire maintenant que avant de se lancer dans des études de médecine, si elle a envie de devenir fleuriste. Quoi. Il faut...
Et d'un autre côté, si son enfant a 16 ans, qu'il est hyper fort au tennis, qu'on sent que c'est le futur André Agassi, on peut se mettre à la place du père et se dire c'est dommage.
C'est dommage, mais quelle est la question du bonheur, la question de la réussite? Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire...
C'est choix en plus, quoi. Voilà, c'est sa vie, c'est ses choix.
Moi, je crois que quand on est enfant, on a besoin d'avoir des parents qui proposent, qui posent un... On est dans les présidentielles, là, qui s'engagent, hein, qui posent un programme. Oui, dans notre famille, on fait de la musique, tu feras de la musique. Oui, dans notre famille, on fait du sport. Et puis, quand l'enfant grandit, il fait ses choix, il fait ses tris. Il n'a plus envie d'aller à la messe le dimanche, il n'a plus envie de prendre sa flûte traversière. OK, mais il y a quand même... En fait, pour se détacher, c'est bien d'avoir quand même un ancrage, à la base.
J'ai lu qu'un lien fort entre un père et sa fille lui permettrait de développer une image positive et confiante d'elle-même. Est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est vrai, mais c'est partiel. C'est en fait avec les deux parents, les deux parents qui sont coéquipiers dans cette affaire. Ce qui met en confiance un enfant, c'est d'avoir des parents disponibles psychiquement pour lui. Et disponibles psychiquement, c'est-à-dire que ce sont des parents qui vont pouvoir répondre de façon accordée aux besoins de l'enfant. Quand l'enfant est tout petit, qu'il pleure, le prendre dans les bras, le rassurer. Quand l'enfant a besoin de limites structurantes, les lui donner. Oui. Et quand on répond de façon accordée, adaptée à l'enfant, alors ça l'outille et ça le... il peut s'envoler, quoi.
Donc c'est pas sexué, là, encore?
Non.
Tant mieux.
Et puis on est vraiment, quand je dis coéquipier, moi je pense toujours les choses en tant que pilote, copilote dans la parentalité. Même dans l'histoire de l'Oedipe, les parents doivent faire mur béton armé contre l'enfant en disant « Hey, on prenait l'exemple du roi et de la reine, on est là pour te porter, tu vas pas faire alliance avec l'un des deux, quoi. »
On est une team.
C'est ça.
Exactement.
Comme on dit aux États-Unis.
Amazing.
D'ailleurs, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Donc, on voit bien qu'au moins deux, quoi.
Matt, une question d'un papa qui vous dit « J'ai une petite fille de 2 mois, j'essaie de la calmer lorsqu'elle pleure et rien ne marche, alors qu'avec sa maman, elle cesse instantanément. Est-ce que c'est parce que c'est une fille ou est-ce que c'est parce que c'est un bébé ?»
Mais parce que... Oh, il est hyper touchant, ce papa. C'est parce qu'à 2 mois, on est tout fusionné avec sa maman. Alors, pour peu qu'elle allaite, dès qu'elle arrive près du sein, wow, c'est l'apaisement total. Donc, le job de ce papa, à ce moment de l'histoire, c'est vraiment de sécuriser cette dyade. Mmh. Comme les poupées russes, on enveloppe la maman pour qu'elle enveloppe le bébé. Et puis... quand elle aura reçu suffisamment de confiance, d'amour, et dans les semaines, les mois qui vont arriver, elle va être folle de son papa. C'est un bon investissement.
Tu en profites d'être peinard, surtout. Je te dire.
J'ai des relations compliquées avec mon père. Je lui ai proposé de participer à une course ensemble, donc comme tout à l'heure. Est-ce un bon moyen pour nous rapprocher et qu'il croit en moi ?
Bon, ça peut être une bonne amorce, mais si les relations sont compliquées, peut-être que ça date pas d'aujourd'hui, oui, et que ça nécessite peut-être d'aller consulter un bon psy pour faire un état des lieux, pour essayer de démêler ce qui se joue, de pas rester dans une situation qui fait souffrir.
Oui, il vaut mieux faire une course quand on est apaisé.
Bah oui. Et puis souvent, moi, je vois bien les situations familiales. On vient au cabinet pendant une heure et demie, on raconte tout, on va chercher ce qui s'est passé dans l'histoire familiale, et puis rapidement, ça se dénoue et au bout de 2-3 séances, bon bah ciao, la prochaine fois. Allez à la pizzeria, faites votre vie sans moi, quoi. Vous voyez, donc ne pas hésiter à consulter quand on sent qu'il y a une souffrance.
Voilà, merci à Eve Pirovitch d'avoir accepté de commenter cet exploit, le marathon des sables, en famille. Voilà qui laisse rêveur. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les différents réseaux sociaux. Ciao tout le monde.